Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue pour la énième fois.
Oui.
Les lundis, le Kiosque Magazine Culture et Société vous est présenté par Serge Hamelin.
Bonjour, lui-même, Serge bonjour, Hamelin. Roger Roy qui
et,
parle.
Oui, et en régie, celui qui va nous diriger ce matin, qui va nous éclairer peut-être,
oui.
Mais qui va surtout nous sonoriser,
oui.
C'est Julien Tardif qui est là, oui. Nous avons encore des sujets intéressants à vous proposer aujourd'hui.
Comme très intéressant, vous allez savoir. Vous allez
oui,
voir.
Oui, ouais. Moi, je vais vous parler de la résilience acadienne. Je vais vous parler de monsieur qui fait du design chez Renault en France. Mais c'est un Québécois.
Eh bien, je vais vous parler de peau.
Peau.
La peau pour l'été avec les lésions cutanées et puis les écrans solaires.
Ah.
Aïe, 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 aïe. Et puis après ça, je vais vous parler de bénévolat extrême.
Le bénévolat extrême?
Oui, monsieur.
On aura tout connu.
Ça va être chic.
Bon, ben alors, je commence par un texte que je suis allé lire dans l'actualité du 15 mai. Il est signé, ce texte, par Dominique Forget. Et on vous parle d'un sujet délicat qu'il faut traiter avec des pincettes.
Rugeot et délicat.
Oui, Dominique Forget l'aborde pour l'actualité. Ce sont les parents. Est-ce que les parents doivent dire à leurs héritiers potentiels ce à quoi ils peuvent s'attendre au moment de leur départ? D'après l'analyse de Dominique Forget, les parents doivent en parler. Héritage, un préavis, s'il vous plaît, c'est le titre. Cette exhortation ne sera pas nécessairement suivie. C'est pas toujours facile de le faire. Voici ce qu'elle écrit. Astrid a vendu son chalet dans les Laurentides parce qu'elle en avait marre des bouchons sur l'autoroute 15. Du moins, c'est la version officielle donnée à la plupart de ses amis. La vérité, dit-elle, c'est que ça m'a crevé le cœur. Cette avocate de 47 ans lui a confié cela sous le sceau de la confidentialité. « J'avais des dettes et je n'arrivais plus à rembourser l'hypothèque », ajoute-t-elle, calée dans le fauteuil de son appartement du plateau Mont-Royal, noyant sa peine dans un verre de Gévry-Chambertin. Astrid rechigne à l'admettre, mais elle a longtemps compté sur l'héritage de son père, dentiste à la retraite, pour boucher le trou dans ses finances personnelles. Il est mort l'an dernier à l'âge de 83 ans, mais l'héritière est restée sur sa faim. Le paternel n'a laissé que, entre deux guillemets, 200 000 $ et des poussières. Les soins de vie, ça coûte cher, soupire Astrid, s'avouant du même souffle, honteuse devant sa propre cupidité. Jamais je n'aurais voulu qu'il se prive de quoi que ce soit. Le comble. Le défunt, qui avait perdu sa femme plusieurs années auparavant et ne s'était jamais remarié, a légué les deux tiers de cette somme à la sœur aînée d'Astrid.
Ah ben là, pareil.
Ben là, ça commence mal. Il m'avait aidé à acheter le chalet, mais il ne m'avait pas prévenu que je serais pénalisé à sa mort à cause de ça. Elle n'est pas la seule à être tombée des nues à l'ouverture d'un testament. Selon un récent sondage de Crop l'actualité, 47 % des Québécois ne parlent pas de ce que les parents laisseront en héritage aux enfants. Un autre sondage mené en 2012 par le groupe Investors révélait que les Canadiens surestiment de 50 % en moyenne la somme dont ils vont hériter. Nancy Aymon, notaire qui pratique en cabinet privé depuis 27 ans, n'est pas étonnée par ces chiffres. L'argent et la mort sont deux sujets tabous, dit-elle. Moi-même, j'ai perdu ma mère il y a une semaine et on est complètement dans le noir. On ne sait même pas... S'il y a un testament, elle refusait de parler de ce genre de choses. Les héritiers, donc, sont souvent perplexes parce qu'ils ont reçu moins que prévu ou rien du tout. Il n'est pas rare que les clients passent à mon cabinet pour revoir leur testament et déshériter un enfant, raconte la notaire. Parfois, ils se sont brouillés avec leur progéniture, mais le plus souvent, ils ont trouvé la... Pardon. Chassons ce chat.
Oui.
Ils ont trouvé l'amour, se sont remariés et désirent faire hériter leur nouveau conjoint au détriment de leurs enfants devenus grands. Les hommes qui se mettent en ménage sont plus prompts que les femmes à déshériter leurs enfants au profit de leur nouvelle flamme, constate Maître Aymon. Le notaire demande à ses clients s'ils ont bien réfléchi. Ils me répondent généralement que leurs enfants font leur vie, qu'ils n'ont pas besoin de leur argent. Les enfants ne voient pas toujours les choses du même œil. Et quand ils n'ont pas été mis dans le coup avant le décès, le terreau est fertile pour qu'éclatent les chicanes de famille. Le paternel avait-il toute sa tête au moment où il a fait son testament en faveur de sa nouvelle petite amie? Une nièce sortie de nulle part aurait-elle exercé une pression indue sur sa tante, profitant de la solitude de la vieille dame abandonnée dans un CHSLD? Dans le doute, des héritiers floués n'hésitent pas à entreprendre une procédure judiciaire. Quand les avocats s'en mêlent, le patrimoine peut vite partir en fumée. Frédéric Barriot et Antoine Elwin, avocats spécialisés en droit des successions, en voient de toutes les couleurs dans leur cabinet. Ils assurent tout faire pour inciter leurs clients à régler leurs différends à l'amiable, mais certains ne veulent rien entendre. J'ai un dossier en ce moment où les frais d'avocat, toutes parties confondues, dépassent déjà les 100 000 $ et on n'est pas encore rendu au procès, dit Maître Elwin. Par exemple, un homme voudrait laisser en héritage à sa seconde femme et à ses enfants, aurait avantage, par exemple, à léguer ses REER à sa conjointe et les assurances à ses enfants. Beaucoup de gens ne connaissent pas les règles et font l'inverse, constate Marie-Claude Riendeau, qui est une conseillère financière. En évitant de discuter de leur dernière volonté avec leurs proches, les testateurs laissent de l'argent filer au fisc, et celui-là, personne ne souhaite le voir hériter. Héritage, un préavis, s'il vous plaît, c'est dans l'actualité du 15 mai.
Alors, moi, je vais vous parler de lésions cutanées.
Ah!
Oupalaï! Ne risquez pas votre peau. C'est dans le Protégez-vous du mois de juin. Et cet article a été écrit par Frédéric David. Les facteurs de risque, le cancer de la peau, c'est pour les autres? Détrompez-vous. Vos ennemis sont plus nombreux que vous ne le croyez. La surexposition au soleil. Le docteur Claveau confirme que 95 % des cancers de la peau sont causés par les rayons ultraviolets. Bon. L'exposition au soleil accumulée au fil des ans favorise l'apparition des carcinomes. Les gens qui travaillent à l'extérieur, comme les travailleurs de la construction, sont plus à risque de développer ce type de cancer, ajoute le docteur Christian Alain Drouin, dermatologue au Centre hospitalier régional du Grand Portage à Rivière-du-Loup. Les coups de soleil maintenant. Bon. Le mélanome est davantage associé aux expositions intermittentes et violentes au soleil. Les gens qui partent une ou deux semaines dans le sud et qui ont des coups de soleil dès leur première journée de vacances augmentent leur risque de développer un mélanome, explique le docteur Claveau. Même les expositions excessives vécues il y a 20 ou 30 ans peuvent causer l'apparition de ce type de lésion.
Oh, 30 ans?
Oui, plus tard. Le teint clair, ah ben ça. Plus vous vous exposez au soleil, plus vous entamez... Ça, c'est intéressant, ça. Plus vous entamez votre capital soleil... C'est-à-dire la quantité totale d'ultraviolet que vous pouvez recevoir au cours de votre vie.
Oh!
On est limité.
Est-ce qu'on a un baromètre
Avant de voir apparaître des dommages cutanés. Malheureusement, tout le monde n'a pas le même capital soleil. Hein? Ça varie en fonction de la génétique de chacun, explique le docteur Drouin. Les blonds et les roux ont généralement un phototype clair qui réduit leur capacité de bronzer et augmente les risques de subir des coups de soleil. Et les peaux foncées sont mieux protégées, mais ne sont pas sans risque pour autant, précise le dermatologue qui rappelle que le chanteur jamaïcain Bob Marley est décédé d'un mélanome.
Ben voyons donc.
Ben, je vous le dis. Enfin, pas moi, oui, je vous le dis, c'est écrit. OK. Le bronzage artificiel maintenant. Ah! Des chercheurs américains ont démontré dans une étude publiée en 2014 dans la revue JAMA Dermatology, que les appareils de bronzage artificiel sont responsables de 2,6 % à 9,4 % des mélanomes et de 3 à 21 % des autres cancers de la peau. Maintenant, la prise de certains médicaments, la chimiothérapie, les immunosuppresseurs administrés aux greffiers cardiaques ou rénaux et les agents biologiques prescrits pour l'arthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, par exemple, affectent le système immunitaire, ce qui favorise l'apparition de cancers cutanés. Oui, monsieur. L'exposition à certains produits chimiques, l'exposition à l'arsenic, hein, mon Dieu, accroît le risque de cancer de la peau. Ainsi que l'exposition à certains produits comme le charbon, le goudron ou la créosote, une substance goudronneuse qui s'accumule dans la cheminée d'un appareil de chauffage au bois.
Yes,
le tabagisme, bien qu'il soit un facteur de risque moins important que pour d'autres types de cancers, le tabagisme est associé à une forme de carcinome qui apparaît sur les lèvres. Ça fait mal. Le mélanome Alors, il y a toutes sortes de types de cancers. Le mélanome, le carcinome basocellulaire, le carcinome à spinocellulaire et les kératoses acnéiques.
Je
Les
les écris, je les
kératoses
écris.
acnéiques, je vais vous en parler parce que je connais quelqu'un qui a des kératoses acnéiques.
Ah ouais.
Oui, Roger Roy. Écoutez bien. Ce sont des lésions précancéreuses, si elles ne sont pas traitées, de 20 à 30 % de ces lésions vont se transformer en carcinome spinocellulaire, précise le docteur Drouin. Ces lésions sont plus fréquentes chez les personnes âgées à cause de l'exposition solaire accumulée au fil des ans. Elles sont situées principalement sur les zones du corps les plus exposées, comme le visage, les oreilles,
Les
la
oreilles.
face dorsale des mains et les avant-bras. Et comment les reconnaître? Il s'agit de petites plaques habituellement sèches, rugueuses au toucher, qui peuvent être légèrement brunâtres et parfois rouges. Précise le docteur Drouin. Elles peuvent mesurer de quelques millimètres à 1 cm de diamètre. Et comment les traiter? Le dermatologue détruit la lésion en brûlant les tissus malades avec de l'azote liquide. On appelle ça de la cryothérapie. Et de nouveaux médicaments sous forme de crème peuvent être combinés au traitement. Il s'agit d'agents immunomodulateurs qui stimulent le système immunitaire pour qu'il se débarrasse des cellules précancéreuses, explique le docteur Drouin. Alors donc, si vous voyez des petites taches comme ça, là, sur les oreilles, sur votre front, des choses comme ça, ben allez voir le dermatologue. Et puis, c'est pas compliqué, il vous fait un petit pchit. Comme ça,
Une créo quelque chose.
d'azote, oui, c'est ça, il brûle ça. Est-ce que j'ai le temps pour nommer autre chose? Oui. Alors, si ce n'est pas traité, eh bien, ça s'en va en, ça se transforme en carcinome spinocellulaire.
Spino,
Ouais.
ça spine.
Lui, là, il se développe à partir de cellules situées dans les couches moins profondes de l'épiderme. Il est habituellement situé dans une zone très exposée au soleil, le visage, les tempes, hein? Les oreilles. La tête, le cou, le dos des mains,
Alouette.
bras et jambes, eh oui. Et comment le reconnaître? Il s'agit d'une plaie qui ressemble à une verrue, souvent rougeâtre, avec une croûte rugueuse au toucher. Là, je commence à voir que des gens qui commencent à se regarder la peau
La
tranquillement.
rugueuse.
Plus je lis, là, plus j'explique ça. Explique le docteur Claveau. La taille de la lésion varie selon le stade de la maladie, de moins de 2 cm à plus de 5 cm. Et comment le traiter? Ce type de cancer est traité de la même façon que le carcinome basocellulaire et génère rarement des métastases. Lorsque c'est le cas, le médecin le traitera comme un mélanome métastatique. Bon. Et puis, est-ce qu'on a le temps pour le mélanome, lui? Le mélanome, lui, il peut tuer,
Un
là.
peu tué, hein?
Ouais,
Oui,
lui, c'est sérieux, là.
oui,
Alors, il se développe à partir de cellules appelées mélanocytes qui fabriquent la mélanine. On n'a pas des armoires comme ça? La mélanine? Responsable de la
Les miennes
pigmenterie,
sont
mais
en
oh, oui,
chaîne.
mais c'est pas drôle. Alors, responsable de la pigmentation de la peau. Le mélanome peut apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais a tendance à se développer sur les zones les plus exposées au soleil, le dos et les épaules chez les hommes et les jambes chez les femmes, précise le docteur Drouin. Et comment le reconnaître? Il peut se manifester sous la forme d'un nouveau grain de beauté, hein, qui apparaît grossi, ou se développer à partir d'un grain de beauté existant qui change de forme et de couleur. Il mesure généralement plus de 6 mm. Et puis, comment le traiter? Eh bien, c'est le cancer de la peau le moins fréquent, mais le plus redouté. Mais il y en est mort, hein, le Bob Marley, là, le
Oui, c'est
chanteur
ça.
jamaïcain.
Alors, il faut faire attention quand on va au bord de la
Ah, il faut faire
mer.
attention partout maintenant.
Se dans le courant. fruits amers. Mismo plan sin cambiar, ya lo sé, siempre igual. Todo el día me podrás perdonar, hago pura tontería. Todo el día estoy atrapado por un pez espada. Cuánta tristeza la costa lejana. Un hombre al agua por cada chica amarga. Un hombre al agua por cada chica amarga. Yo padezco el amor que caduca. Yo padezco el amor que caduca. Hombre al agua por cada chica amarga. Hombre al agua, por cada chica amarga.
Au volant du design chez Renault. Hey, c'est un texte qui suit cette chanson-là.
Ah, bon?
Ça vole.
D'accord. Hey, ça se danse bien sur la plage, cette chanson qu'on vient d'entendre. Hein?
Pas dans le studio surchauffé, non, mais à la plage.
Oui, oui.
Dans la presse affaires du 15 juin, donc, j'ai lu un texte de Marc Tison. Au volant du design chez Renault, c'est un Québécois qui connaît du succès en France. Il s'appelle Louis Maurras. Il est né à Loretteville. Et il travaille au technocentre de Renault à Guyancourt. Après des études en design industriel, Louis Maurras est devenu directeur du design pour les véhicules utilitaires du constructeur automobile français. La dernière refonte du fourgon Master de Renault, introduite en 2010 et revue en 2014, est le projet dont Louis Maurras est le plus fier. On est passé numéro 1 l'année dernière au Brésil, devant Fiat, ce qu'on n'avait jamais fait avec les véhicules précédents, lance le designer industriel québécois. C'est vraiment le top, mon master. C'est son master? Il dit oui, c'est mon master, en effet. Directeur du design pour la gamme des véhicules utilitaires chez Renault depuis 2005, Louis Maurras a mené toute la refonte entamée en 2006. Le master avait besoin d'une grosse rupture stylistique à l'extérieur et à l'intérieur. C'est vraiment une icône. Ça reste au sommet de ma liste et c'est un sacré succès. Tout jeune, Louis Moraz voulait dessiner des véhicules. À peine diplômé en design industriel, il avait déjà l'Europe en ligne de mire. En 1987, j'avais balancé une trentaine de CV en Italie et en France. J'ai pris mon sac à dos, je suis venu en Europe, et le premier qui m'a offert un job, c'est Renault. Pendant 5 ans, il a travaillé à la première Mégane, dont il a dessiné l'aménagement intérieur. J'ai acquis mon métier durant ce projet-là. C'était une expérience incroyable. Après un passage chez General Electric Medical en France, puis chez BRP au Québec, il est retourné chez Renault en 2005, accompagné de sa conjointe québécoise et de la petite Hyacinthe, née entre-temps. Depuis 2005, il a mené les dernières phases de développement de la deuxième génération de la fourgonnette Kangoo, puis sa mise à jour en 2013, et il a dirigé la refonte du fourgon intermédiaire Trafic, présenté en 2014. L'autre gros truc pour moi, c'est l'arrivée des pick-up. Ça fait 6 ou 7 ans que je travaille sur le sujet. La première camionnette a affiché le losange Renault, dérivé du véhicule utilitaire Sport Duster de sa filiale roumaine Dacia, a été présentée au salon de Buenos Aires en juin. Le VU est un domaine qui m'éclate parce qu'il y a toute cette complexité, dit le Québécois. Sous les diverses déclinaisons, un même véhicule utilitaire doit satisfaire et séduire les directeurs de parcs de voitures, les conducteurs, les passagers occasionnels, les artisans commerçants qui utiliseront le véhicule avec leur famille et même les particuliers. Le Master, pour ne prendre que cet exemple, peut connaître jusqu'à 350 versions. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet est tellement complexe qu'il faut qu'on guide tous les jours les designers et les chefs de projet pour faire en sorte que les projets avancent. Et comme le véhicule utilitaire n'est pas le sujet le plus sexy pour un designer qui rêve de dessiner des concepts car, il faut avoir beaucoup de conviction. Le développement d'un nouveau véhicule dure environ 5 ans. Dans les phases préliminaires, le directeur du design contribue à l'élaboration des lignes directrices du projet. Quand on atteint les étapes créatives, il faut que je m'assure que les métiers, design intérieur, design extérieur, couleur et matière, soient bien organisés pour livrer les attendus, les livrables de chaque jalon à l'intérieur du budget alloué. Lui-même ne touche plus au crayon et ne fait plus d'esquisses. Et je ne veux vraiment plus en faire, je préfère convaincre les designers, leur donner les pistes et les laisser s'exprimer. Mon innovation, j'essaie de la mettre dans le contenu, dans les prestations, dans la bonne ergonomie, dans la gestion de la qualité perçue, dans le management lui-même. Là-dessus, il y a vraiment de quoi s'exprimer chez Renault. Louis Moraz n'a jamais senti de condescendance chez les cousins français. Au contraire, ça aurait peut-être été différent à une autre époque, mais ayant travaillé dans des boîtes anglo-saxonnes et parlant anglais, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec cet aspect-là. On est capable de convaincre rapidement qu'on a peut-être un accent rigolo au départ, mais qu'on a des choses dans notre sac à dos. Il juge important de conserver le signe distinctif de son accent québécois auquel il a tout de même ajouté des expressions du cru comme un « chouïa », un peu moins, une « palanquée », c'est-à-dire un char de jalon. Il fait partie des porte-paroles officiels du design qui peuvent communiquer avec les médias sans problème, commente Philippe Barre, responsable communication du design. Il n'y en a pas beaucoup en design. Depuis 1 an et demi, Louis Moraz est, en plus du reste, responsable du réaménagement de l'espace design du technocentre Renault. Les travaux commencent cet été. Et la première étape, je vais refaire tranquillement mon Kangoo. C'est un méga projet, car c'est son Kangoo. Alors, il y a des Québécois qui réussissent un peu partout dans le monde, dont Louis Moraz, qui est designer chez Renault.
Alors, il y a un anti-stress félin qui existe.
Félin?
Oui, félin. Alors, inutile de dépenser une fortune pour apaiser votre chat nerveux. offrez-lui simplement une petite boîte de carton. Il s'y sentira instinctivement en sécurité, car elle lui permet de se cacher des prédateurs potentiels ou de tendre une embuscade à ses proies imaginaires.
Hein?
Cet espace clos conserve aussi la chaleur, ce qui permet à Minet d'atteindre les 30 ou 36 degrés Celsius auxquels il se sent le plus à son aise pour pratiquer son activité favorite, dormir. C'est cute.
Oui. Espoir maintenant pour les tatoués qui seraient malheureux d'avoir pris cette décision à un moment donné.
Ah oui?
Un étudiant en médecine de l'Université Dalhousie à Halifax vient de mettre au point une crème qui effacerait, c'est au conditionnel, les tatouages. Fini les douloureuses et coûteuses séances au laser pour faire disparaître le nom de votre ex ou le joli dauphin que vous avez sur le mollet. La crème concoctée par Alec Falkenham stimule le travail des macrophages du système immunitaire, dont le rôle est de s'attaquer aux corps étrangers, l'encre, par exemple, présent dans notre organisme. Ce sont eux qui font naturellement pâlir les tatouages avec le temps. En les stimulant, Falkenham a réussi à effacer des tatouages chez des souris, rapporte le Globe and Mail. Le chercheur a déjà fait breveter sa technologie et poursuit en ce moment des tests plus poussés.
Eh bien, moi, je vais vous en apprendre une bonne ce matin.
Allons-y.
Plus blanc que blanc. Écoutez-moi bien. Un truc pour redonner leur blancheur à vos meubles de jardin en PVC ou en résine.
Mm-hmm.
Frottez-les avec une éponge humide recouverte de bicarbonate de soude, la petite vache.
Oui.
Laissez le produit agir quelques minutes, puis rincez à grande eau et lustrez avec un chiffon doux. Et si des taches grises persistent, répétez l'opération avec une solution faite d'une quantité égale de vinaigre, de jus de citron et de bicarbonate. Et utilisez une vieille brosse à dents pour nettoyer tous les recoins. Pas formidable?
Les brèves, c'est terminé.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, tantôt, j'ai parlé de problèmes de peau. Alors, si on veut se protéger, eh bien, on a fait des tests sur des écrans solaires en vaporisateur. Et puis, à l'aide d'une source de rayons UV et d'un spectromètre, on a évalué la capacité à bloquer les différentes longueurs d'onde UVA et UVB de 30 écrans solaires en vaporisateur de FPS 30, vendus dans les pharmacies, les épiceries et les magasins à grande surface, et les prix ont été relevés en février et en mars 2015. C'est dans la revue Protégez-vous, un article qui a été écrit par Clémence Lamarche. Eh bien, imaginez-vous donc que sont-ils efficaces? On a mis au banc des 730 écrans solaires, OK. Conclusion, les deux tiers de ces produits s'en sortent bien, à condition que vous en mettiez suffisamment. Et c'est ça l'affaire.
Ouais.
La quantité à appliquer est de 2 mg de lotion par centimètre carré de peau, soit environ 2 cuillerées à soupe, c'est-à-dire 30 mm pour une personne de taille moyenne en maillot de bain. Le grand désavantage des vaporisateurs, c'est... Mais ils ne disent pas la grandeur de la personne, taille moyenne, OK. Impossible de mesurer cette quantité dans la paume de votre main comme on le ferait avec une lotion ordinaire. Alors, je vais avoir de la difficulté à évaluer si j'atteins la quantité recommandée. Bon, alors, pour vérifier si j'en utilise assez, il faut se rappeler qu'une bouteille de 236 ml ne suffit que pour environ 7 utilisations. C'est tout.
7.
7 seulement. Alors, ça ne dure pas 3 ans, ça, là. Ça dure 7 utilisations. Car vous en remettez, car il faut en remettre régulièrement après chaque baignade. Sur la plage ou au bord de la piscine, chaque adulte devrait donc prévoir une bouteille complète par jour. Hein? Ça, on ne pense pas à ça, là. Aïe, aïe. Deux types de radiation sont dangereux pour la peau et augmentent les risques de cancer. Il y a les rayons UVB, responsables des coups de soleil, et les UVA qui sont davantage associés au vieillissement prématuré de la peau. Et pour être pleinement efficace, un écran solaire doit se protéger contre ces deux types de rayons. Le FPS, facile à repérer sur l'emballage de votre lotion, ne vous renseigne que sur la protection contre les UVB. Difficile, donc, de savoir précisément le degré de protection contre les UVA que vous procure votre produit. Alors, pour vous aider à faire votre choix, protégez-vous à analyser la protection contre les UVB et les UVA offertes par les lotions en vaporisateur en respectant le protocole d'évaluation in vitro qu'on utilise depuis plusieurs années. Alors, la conclusion du test, pas besoin de payer le gros prix. Plusieurs produits à moins de 2 $. Mais ça, c'est 2 $ l'application.
Oh!
Donc, ça veut dire qu'une bouteille contient 7 applications. Ça veut dire que c'est 14 $ finalement.
Ouais, ouais.
Hein, chaque bouteille. Et il faut en utiliser, d'après eux, une par jour si on passe la journée au soleil.
Ah oui.
Quand même, hein?
Un mois au Mexique, là,
ça, ça ben là, ça fait... Ça, non, ça en fait, ça, monsieur, des bouteilles. Il faut apporter ça par caisse. Les marques maison sont aussi bonnes que les autres. Et la question revient souvent, et dans toutes les catégories de produits où les grands détaillants sont aussi fabricants. Or, le test d'écran solaire montre bien qu'on ne peut pas mettre toutes les marques maison dans le même panier. Non. En effet, eh bien, imaginez-vous que celle de Walmart, qui s'appelle Equate, un peu comme Équateur, hein? Mm-hmm. Equate, et de l'Obla, le choix du président, se distingue, obtenant la mention « meilleur choix oh. », puisqu'elles sont à la fois efficaces et abordables. Les cinq autres marques maison font moins bonne figure. Pharmaprix, Life Brand, en particulier déçoit. Parce que son vaporisateur offre une protection irrégulière contre les rayons UVA et UVB. Et les marques de Jean Coutu, Éclat Soleil, Family Prix, Family Prix, Biomédic, Uniprix, Option Plus et Proxim Aloma font mieux pour les UVB, mais elles ne bloquent pas aussi bien les UVA que les meilleurs choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il reste une minute à peu près, deux minutes. Bon, alors. Puis la vitamine D, elle, là-dedans. Est-ce que porter un écran solaire vous empêche de synthétiser de la vitamine D? Le corps humain a effectivement besoin de soleil pour le faire.
Oui.
Et le temps d'exposition nécessaire varie en fonction du moment de l'année, de votre position géographique, de votre âge et de votre type de peau. De plus, plusieurs aliments comme le lait et les poissons gras contiennent aussi de la vitamine D. Et il est toujours possible d'opter pour des suppléments. Alors, la crainte de manquer de vitamine D ne devrait donc pas vous empêcher d'utiliser des écrans solaires. Maintenant, les meilleurs écrans solaires. Alors, à vos crayons, c'est parti. On parlait de Walmart. Ça s'appelle Vaporisation Continue Sport de Equate. C'est le moins cher. Ça revient à 82 cents l'application pour une bouteille à raison de 30 millilitres. Okay? Et la bouteille en contient 236 millilitres. Et ça, ça protège contre les UVB et les UVA. Equate Vaporisation Continue, c'est la même chose. Ensuite, il y a Banana Boat. Hein? Connu ça, c'est Banana Boat. Sun, Comfort. Eh bien, lui, c'est 1,49 $ l'application. Alors, bon soleil.
Dans la revue Relations du mois de juin,
oui,
on y consacre un grand dossier à la francophonie en Amérique entre rêve et réalité. On peut y lire des textes comme « Une francophonie nord-américaine plurielle mm-hmm. »,« Québec-Canada francophone, le mythe de la rupture » ou encore « Mes langues à moi sont toutes mortes », il s'agit d'un auteur haïtien. Aujourd'hui, je m'intéresse au texte sur l'Acadie. C'est Maurice Basque, interviewé par Relations, qui parle de la résilience acadienne. En introduction, on peut lire « Fondée en 1604, à l'Île-Sainte-Croix. L'Acadie est le premier foyer du peuplement de peuplement francophone en Amérique du Nord. À l'instar de cette réalité historique, l'identité acadienne et son caractère distinct, forgé par une histoire mouvementée, restent pourtant méconnus dans la francophonie, et ce, malgré un dynamisme culturel indéniable depuis plusieurs décennies. Maurice Basque est historien et fut directeur de l'Institut d'études acadiennes de l'Université de Moncton de 2007 à 2010. Question posée par la revue Relations. La réalité et le caractère national de l'Acadie ne sont pas toujours connus, même au Québec. Comment expliquez-vous cette méconnaissance? Maurice Basque de répondre. Avant toute chose, lorsqu'on discute de la société acadienne contemporaine, il faut préciser que c'est de l'Acadie des quatre provinces de l'Atlantique dont on parle, à laquelle on peut inclure les îles de la Madeleine, où la majorité de la population s'affiche autant acadienne que québécoise. En somme, ça représente environ 300 000 personnes qui parlent français au quotidien et dont la masse critique se retrouve au Nouveau-Brunswick. Cette province est la seule officiellement bilingue et la seule à l'extérieur du Québec où les droits des francophones sont assez bien précisés dans la Constitution canadienne. Même si seulement le tiers de la population du Nouveau-Brunswick est francophone, celle-ci a aujourd'hui des hôpitaux, des municipalités et un système scolaire qui va de la maternelle au troisième cycle universitaire, ce qui est assez exceptionnel, compte tenu de l'histoire. Or, l'Acadie est souvent vue au Québec comme l'avant-dernière station avant l'assimilation totale. Bernard Landry, lorsqu'il était premier ministre du Québec, avait d'ailleurs appelé les Acadiens à déménager au Québec, le foyer de la francophonie, pour éviter l'assimilation. Ce faisant, il oubliait qu'il y a deux foyers de peuplement francophone dans l'histoire nord-américaine, l'Acadie, fondée en 1604, puis Québec, fondée en 1608. Bref, les Acadiens ne retournent pas chez eux s'ils déménagent au Québec. Si la crainte de l'assimilation est fondée dans certains cas en Acadie, il faut toutefois reconnaître que la vapeur a été renversée. Dans les années 1970, on croyait en effet que les Acadiens seraient disparus d'ici l'an 2000, comme le prévoyait l'historien Michel Roy dans son essai « L'Acadie perdue ». Mais dès les années 80-90, on sent le vent tourner et une fierté, une effervescence culturelle s'installer. Ce n'est pas le seul facteur, mais la politique du bilinguisme officiel adoptée par Pierre-Éliott Trudeau a beaucoup contribué à ce renouveau. Pour nous, le bilinguisme, c'était surtout la capacité de demander des services en français. C'était une manière de s'épanouir, d'être fier au sein du Canada. Au Québec, pour plusieurs, cela a été vu comme une compromission plutôt que comme un compromis acceptable. Question posée par Relation. Quel rapport maintenez-vous avec la Louisiane, où un nombre important d'Acadiens se sont retrouvés après la déportation de 1755? Maurice Basque de dire... Le rapport des Acadiens avec la Louisiane est complexe, en partie à cause d'une certaine méconnaissance de la réalité louisianaise. La grande majorité des Acadiens s'imaginent en effet une Louisiane peuplée d'émules de Zachary Richard, revendicateur, qui parle français. Dans les faits, la très grande majorité du demi-million de Cajuns en Louisiane sont des anglophones. Pour eux, le français est pratiquement disparu, sauf dans quelques chansons. Mais ça ne les empêche pas d'avoir une identité dont ils sont fiers. C'est une culture qui a assimilé beaucoup d'Allemands, d'Espagnols, de Créoles, et dont les noms de famille sont souvent différents des patronymes canoniques acadiens. Une très petite frange, très minoritaire, les Cadiens, parlent encore français, mais l'essentiel de la culture Cajun se vit en anglais et s'affiche la fin de semaine, pour ainsi dire. Elle n'est pas vécue au quotidien, elle n'est pas politique. Aussi, le rapport à la Louisiane, bien qu'on ne se l'admette pas toujours, demeure trouble. La louisianisation, ce n'est pas un terme positif, ça demeure une hantise, car on sait qu'il faut toujours rester vigilant. L'Université de Moncton, l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et les collèges communautaires francophones demeurent les fers de lance de cette vigilance, voire de cette résilience acadienne, car leurs diplômés s'installent très majoritairement en Acadie et continuent à leur façon de construire cette Acadie de l'Atlantique. Quel rôle l'Acadie peut-elle jouer dans la francophonie américaine? Le handicap majeur de l'Acadie est qu'elle n'a pas d'État. Les efforts reposent donc sur les citoyens et le milieu associatif. Or, dans les années 70, il y avait deux ou trois associations qui rassemblaient une bonne partie des Acadiens, aujourd'hui comme ailleurs en Occident. Le monde associatif a éclaté en de multiples niches. C'est plus difficile de s'investir individuellement dans une francophonie plus large. Le fédéral n'a pas aidé non plus en exigeant dans les années 70 que l'action collective francophone se fasse par province. Dans l'Acadie de l'Atlantique, cela a donné lieu à un morcellement. La Société nationale des Acadiens, qui regroupe tous les Acadiens, existe toujours, mais les questions plus politiques relèvent maintenant des associations provinciales, comme la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse, etc. Alors, c'est un texte qu'on peut lire dans la revue Relations, la résilience acadienne, c'est Maurice Basque qui en parle.
Avec les filles du Nord, à jouer aux cartes, puis veiller tard. Ni Quackenbach, j'y vais de moins en moins souvent. Il reste plus de bons restaurants. Y'a rien de ouvert après 5 heures.
Alors, on a un dossier ici qui parle les plus marginaux des bénévoles. Qu'est-ce qui motive des bénévoles à consacrer du temps à des causes impopulaires et marginalisées? Quoi de mieux que de le demander aux principaux intéressés?
Oui.
Rencontre avec des Montréalais transformés par leur expérience qui ne pourraient plus imaginer leur vie sans le bénévolat.
Mm-hmm.
Alors, c'est un texte qui a été écrit par Catherine Girouard dans la revue L'Itinéraire. On appelle ça du bénévolat extrême. C'est bon?
Mm-hmm.
Les bénévoles sont des denrées rares et précieuses au Québec. Nous sommes la province qui a le plus faible taux d'engagement volontaire au pays. Alors qu'on se bouscule aux portes d'organismes aux causes populaires, comme l'aide à l'enfance, les volontaires sont beaucoup moins nombreux à s'engager auprès d'une clientèle marginalisée et stigmatisée, comme les délinquants sexuels, les détenus ou encore les gens atteints du VIH-SIDA. Et malgré tout, certains répondent à l'appel. Peut-on alors parler de bénévoles de l'extrême? Selon Statistique Canada, les trois principales raisons qui poussent les gens à faire du bénévolat sont le désir de contribuer à la communauté, 93 % celui de mettre à profit leurs compétences et leurs expériences, 78 % ou encore le fait d'être personnellement touché par une cause, 59 %. Mais certaines causes sont plus populaires que d'autres. Nous manquons toujours de bénévoles pour le soutien aux personnes âgées, les popotes roulantes, les visites amicales et les accompagnements médicaux, énumère François Lahaise, agent des communications au Centre d'aide bénévole de Montréal, qui aide les organismes à recruter des volontaires. Et lorsque on publie des annonces de bénévolat pour impliquer auprès de délinquants sexuels avec le Cercle de soutien et de responsabilité du Québec, CSRQ par exemple, nous ne recevons pas une tonne de réponses non plus. Pascal Bélanger, coordonnateur général de l'ARCAD, un organisme qui offre des activités aux détenus dans les pénitenciers fédéraux, croit que ces difficultés à recruter pour des organismes comme le sien sont inhérentes à la peur. Dans le cas des prisons, la peur est amplifiée par la fausse représentation qu'en font les médias. Je n'ai pas encore vu un seul bénévole dans Unité 9, alors qu'il y en a 9000 impliqués dans les prisons du pays. Fait-il remarquer au passage, il faut rappeler que le bénévolat n'est pas considéré comme séduisant en soi, ajoute M. Lahaise. Les Québécois ne sont d'ailleurs que 33 % selon les statistiques à répondre à l'appel. En plus d'être moins nombreux à s'y adonner que dans le reste du pays, ils y consacrent aussi moins d'heures. François Lahaise croit que même que ces statistiques dressent un portrait plus rose de la réalité qu'elle ne l'est, ça voudrait dire que plus de 2 millions de Québécois font du bénévolat, souligne-t-il. Si c'était le cas, des centres de recrutement de bénévoles comme le nôtre n'existeraient pas. Selon M. Lahaise, notre faible taux d'engagement pourrait s'expliquer en partie par la perte de notre esprit de vivre ensemble, encouragé depuis plusieurs années par la promotion de l'individualisme. On se fait répéter jour après jour, à travers des centaines de messages publicitaires, de penser à soi. Ça finit par avoir des répercussions sur nous. Mais essayer le bénévolat, c'est l'adopter, assure l'agent des communications. Tous les bénévoles rencontrés dans le cadre de ce dossier étaient du même avis. Même des études le prouvent, le bénévolat serait bon pour la santé psychologique et physique de ceux qui le pratiquent. Une réputation à refaire. Il n'est pas plus difficile d'aider une personne en détention qu'un élève en difficulté, fait valoir Pascal Bélanger. Il n'y a, quant à moi, d'extrême que le contexte. L'activité en tant que telle est pas mal plus soft qu'on peut l'imaginer. Tous sont encore une fois d'accord sur ce point. Leur cause n'aurait donc d'extrême que leur réputation. Les bénévoles qui travaillent chez Telle Aide ou Suicide Action, ou auprès d'enfants gravement malades, vivent, à mon avis, des situations plutôt extrêmes, nuance M. Lahaise. Organismes et bénévoles en voie de disparition. Mais cette réputation qui colle à la peau d'organismes comme l'ARCAD ou le CSRQ n'est pas sans répercussion, attirant peu de capital de sympathie politique, surtout auprès des conservateurs. Ils sont maintenant victimes de coupures financières majeures. Leur budget de fonctionnement, pourtant déjà au régime minceur, est passé de quelques dizaines de milliers de dollars par année à zéro.
Mmh.
Oui. Ces causes ne passant pas bien la rampe de l'opinion publique, elle peine à trouver d'autres sources de financement et l'Arcade et le CSRQ sont donc voués à une mort imminente quelques mois à peine si rien ne change. Il y a pourtant là un enjeu de santé publique important. Moins les gens pourront recevoir de l'aide et plus la société sera malade, prévient M. Lahaise. Et ces compressions budgétaires coupent l'herbe sous le pied de gens qui sont pourtant prêts à s'impliquer corps et âme pour le bien-être de la société. Ce qui me fait peur, c'est que ces coupures m'enlèvent presque cette passion et ce désir de m'engager. Et ça finit par ronger, dira enfin Annick Lavauguiez, bénévole et engagé dans plusieurs causes, dont le CSRQ. Et ces mots résonnent fort quand ils viennent de la bouche de la médaillée de la paix par les YMCA du Québec pour la qualité de son engagement. Alors, il y a une main tendue entre les barreaux, et les mardis et les jeudis soirs, Jacques Fréchette est toujours occupé. Il soupe en vitesse après le travail, pédale jusqu'au métro Saint-Michel, où il rejoint son groupe de covoiturage direction Laval. Et ce n'est pas pour ses soirées de hockey ou entre gars, mais plutôt pour ses soirées de bénévolat, où il anime des activités sociales dans des pénitenciers. Alors voilà, ça vous donne une idée un peu de ce qui se passe dans le merveilleux monde du bénévolat. Si ça vous tente de vous impliquer, ben, gênez-vous pas.
Le bénévolat extrême, qu'on dit.
Oui.
Et bref, maintenant, saviez-vous que les étrangers achètent, entre guillemets, Montréal? On parle des condos.
Ah.
Plus de 7 % des condos de Montréal appartiennent désormais à des étrangers.
Ah.
Un nombre nettement supérieur à la moyenne enregistrée normalement dans les grandes villes canadiennes, soit 2,5 %. Cet engouement international pour l'immobilier montréalais comporte sa part de risque. Si ses propriétaires devaient, pour une raison ou pour une autre, vendre tous en même temps, cela pourrait avoir un effet désastreux sur le marché. On le sait bien.
Oui.
Les condos appartenant à des étrangers, Montréal 6,9 %, Vancouver 5,8 %, Toronto 4,3 %.
Ah! Et j'imagine que si on achète des condos à Montréal parce qu'ils sont moins chers qu'à Vancouver.
Hein? Ça, oh, ça, c'est sûr, sûr et certain.
Hein? Ça doit être ça. Hein? Eh bien, dites donc, alors, qu'est-ce qu'on a à dire ce matin ici? Ah, il y a l'huile de coco. Ouais, je vous ai parlé du bicarbonate de soude tantôt. Maintenant, je vais vous parler de l'huile de coco. Trois usages inédits. L'huile de coco, c'est formidable.
Oui, ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler. Ouais,
polir le bois, le métal et le cuir.
Est-ce que c'est mieux que la petite vache?
Frotter, c'est autre chose et c'est merveilleux. Frotter les surfaces propres dans un mouvement circulaire avec un chiffon doux enduit d'un peu d'huile. Elle leur rendra leur éclat naturel au bois, au métal et au cuir.
Mmh.
Ensuite, ça soulage les petits bobos. Oui. Mmh. Ses propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antifongiques en feraient un remède efficace contre les piqûres d'insectes, les éraflures et les infections causées par des champignons. Appliquez une petite quantité d'huile entre les orteils sur la zone affectée et répétez au besoin.
De l'huile de coco.
Soignez votre animal domestique, votre chat qui dort dans sa boîte. L'huile de coco pourrait aussi soulager les démangeaisons des chiens et des chats allergiques, adoucir un museau et des coussinets secs et réduire la formation de boules de poils. Pour calmer les démangeaisons, donnez 5 à 10 ml, 1 à 2 cuillerées à thé d'huile par jour à votre compagnon. La plupart d'entre eux en adorent le goût. Et pour assouplir pattes et museau, appliquez-en un peu sur les zones affectées. Et pour les boules de poils, frottez-en les pattes du minet en se léchant. Il absorbera l'huile, ce qui facilitera sa digestion.
Bien tiens.
Ah oui.
Rien de trop beau pour minet. On ne badine pas avec Bouddha. C'est une nouvelle religieuse.
Oh, c'est beau, ça.
Ouais. Trois tenanciers d'un bar de Rangoon, en Birmanie, ont récemment été condamnés à 2 ans et demi de travaux forcés. Leur crime? Avoir diffusé sur leur page Facebook une publicité qui montre Bouddha portant des écouteurs.
Non.
Trois hommes, deux Birmans et un Néo-Zélandais, ont eu beau s'excuser de leur ignorance, de la religion comme des lois birmanes, rien n'y fit. Le juge a décrété que l'illustration avait offensé la religion majoritaire en Birmanie. Il compte en appeler ceux qui ont été condamnés, en appeler du jugement. Oh là, alors, c'était le Kiosque Magazine du 29 juin que nous avions à vous proposer.
Oui.
Ici Serge Hamelin, Roger Roy. Et en régie pour la deuxième partie de l'émission, Mathieu.
Oui.
Au revoir et...
à la semaine prochaine.